Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous, merci d'être toujours fidèles à l'écoute de Métropolez-vous. Ceux qui suivent de près l'actualité de la métropole toulousaine auront peut-être vu passer cette information. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, a annoncé il y a quelques semaines que le projet de candidature de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO était ajourné, et ce en vue de consolider le dossier. Rappelons que c'était un objectif qu'il avait fixé pour le mandat en cours. Il me semblait donc important de faire le point sur le sujet et de préciser les raisons qui ont amené à revoir l'ambition de départ. La candidature est-elle seulement reportée ou pourrait-elle être abandonnée? Quels sont les obstacles qui sont apparus ces derniers temps? Comment le projet pourrait-il être relancé? Selon quels axes et avec quelle nouvelle échéance? Cela pourrait-il remettre en cause le projet général de mise en valeur du patrimoine dans la métropole toulousaine? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission et que l'on pourrait finalement résumer en une seule. Où en est la candidature de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO? Pour faire le point et répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Annette Legnaud, adjointe au maire de Toulouse, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains. Bienvenue Madame la vice-présidente et merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je viens d'indiquer les délégations dont vous avez la charge à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, il faut peut-être qu'on précise à nos auditeurs au titre de laquelle vous êtes impliquée dans le dossier de candidature de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'imagine que c'est sans doute en lien avec l'urbanisme et les projets urbains.
Bonjour à tous. En effet, je suis en charge de l'urbanisme et du patrimoine. C'est un souhait de Jean-Luc Moudenc qui a voulu justement, d'une façon originale mais qui se répand peu à peu, que le patrimoine ne soit pas un objet isolé ou une délégation isolée, mais pour Toulouse, que le patrimoine s'inscrive dans une dynamique toulousaine que l'on connaît, puisque Toulouse a une forte attractivité, donc un développement urbain excessivement important, et ce développement urbain doit se faire dans le respect du patrimoine. Donc, intégrer le patrimoine dans une politique de développement urbain était une volonté politique de Jean-Luc Moudenc qui a vraiment tout son sens.
On va faire un peu d'histoire. Quand a été lancé le projet pour monter un dossier et inscrire Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO, et avec quels objectifs? Ça a été décidé au tout début du mandat 2014-2015?
Dès que nous sommes arrivés, nous avions affiché en quelque sorte notre ambition, parce que c'est vraiment une ambition patrimoniale. Inscrire Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO était cette ambition. Alors bien sûr, c'est un chemin long, nous l'avons dit, semé d'embûches et de difficultés, mais c'est une ambition. Et nous n'avons pas, bien sûr, arrêté ce projet, parce que nous l'avons toujours. La seule chose que nous avons dit et que Jean-Luc Moudenc a eu l'occasion de dire, c'est que nous devions consolider notre projet. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il suffisait de présenter un dossier d'une cathédrale, d'une place, d'un patrimoine exceptionnel, et les choses s'engageaient, et rapidement, la collectivité était inscrite au patrimoine mondial. C'était avant, et c'était il y a longtemps. Ça n'est plus du tout le cas maintenant. L'UNESCO souhaite que l'on raconte une histoire. Il ne s'agit plus d'un objet ou d'un monument ou d'un édifice particulièrement exceptionnel, même exceptionnel, ça ne suffit pas. Il faut qu'il s'intègre dans une histoire de la collectivité à raconter. Donc nous nous sommes positionnés dans ce contexte-là. Nous avons mandaté un bureau d'études, un expert, pour nous accompagner dans cette démarche. Nous avons créé un comité d'orientation présidé par Christine Albanen, ancienne ministre de la Culture, qui est toulousaine. Dans ce comité d'orientation, un certain nombre d'experts, d'experts universitaires, d'experts professionnels, d'experts de la société civile aussi, qui avaient un regard particulier sur le patrimoine. Nous avons constitué un comité scientifique, là par contre avec des professionnels à la fois de monuments historiques, mais de l'histoire également, de l'histoire de la collectivité, de l'histoire des biens. Et nous nous sommes engagés dans un travail d'identification, de recherche de ce qui faisait la spécificité toulousaine, puisque vous le savez, pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut être un site absolument universel, unique et exceptionnel. Cet objectif d'être unique et exceptionnel, il faut creuser donc les sujets, il faut approfondir les sujets pour démontrer que Toulouse est exceptionnelle, même si on le sait tous, même si on sait que Toulouse est unique, ben il faut démontrer que l'histoire que l'on va raconter sur Toulouse n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Merci de nous avoir rappelé les bases, les prémices et les objectifs sur lesquels se fonde ce projet. Nous allons maintenant faire une parenthèse pour nous intéresser à l'actualité métropolitaine d'aujourd'hui. Pour ça, nous allons retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. On ne parle que de ça, ou presque, peut-être un peu trop, diront certains. Il fait très chaud en Haute-Garonne cette semaine.
Oui, et pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, Toulouse Métropole et Veolia testent dans le quartier de Montaudran des pavés rafraîchissants. Une première en Europe. En cas de chaleur, de l'eau de pluie est injectée sous les pavés. Avec son évaporation, la chaleur du bitume baisse de 5 degrés. Le système d'évaporation se déclenche automatiquement lorsque le capteur météo installé à la surface enregistre un certain niveau de chaleur, à savoir plus de 30 degrés. Ces jours-ci, il va donc fonctionner à plein régime. Le budget de cette expérimentation s'élève à 310 000 euros environ et s'inscrit dans le cadre du programme Éco-Cité Ville de Demain. À terme, pour lutter contre ces îlots de chaleur, Toulouse Métropole souhaiterait coupler cette solution avec d'autres méthodes naturelles comme la végétation et l'ombrage.
Comme vous le savez, il est très désagréable d'être coincé dans les embouteillages les jours de canicule. On sera donc très heureux d'apprendre que la circulation est sécurisée et fluidifiée dans l'ouest de Toulouse grâce à l'échangeur du Perget qui vient d'être inauguré.
Oui, cet échangeur situé entre la route nationale 124 aménagée à deux fois deux voies qui relie Toulouse à Auch et la route départementale 82 dessert l'ouest de Colomiers et les zones d'activité du Perget, d'Anjaca et de Pahin, avec un trafic pouvant atteindre 3000 véhicules par heure sur le giratoire Terre et 1000 par heure sur la route départementale 82 venant d'Anjaca. Le projet a consisté à réaménager la bretelle de sortie sur la route nationale 124 en déboîtement à une voie et mettre à deux voies son raccordement sur le giratoire Terre, mais aussi de créer une ramification de la bretelle précédente pour permettre aux usagers de rejoindre directement la route départementale 82 côté zone d'activité du Perget en évitant le giratoire Terre. Rendre plus fluide le trafic routier, c'est un véritable enjeu et toujours d'actualité pour Toulouse Métropole.
Et puis pour finir, il y a de bonnes nouvelles dans le domaine patrimonial avec des lieux abandonnés qui reprennent vie.
Oui, c'est le cas de la crypte de l'église Saint-Aubin. Elle est en mauvais état et fermée au public depuis 15 ans pour des raisons de sécurité. Mais la crypte de l'église Saint-Aubin pourrait bientôt retrouver la lumière. Elle devrait devenir en 2022 un espace dédié à la création, au numérique et à la vie de quartier. Il s'agit du projet Lighthouse. C'est l'un des 15 projets lauréats de Dessine-moi Toulouse, le concours lancé par la métropole pour transformer des lieux emblématiques de la ville. Il prévoit de réhabiliter la crypte et d'en faire un espace dédié à la création, au numérique et à la vie de quartier. C'est l'entreprise ICAD qui porte ce projet. Elle prévoit d'investir 5 millions d'euros pour transformer la crypte en 4 espaces différents. Un espace dédié à la production avec des studios, des entreprises de cinéma, d'animation et de jeux vidéo. Un espace consacré à la création digitale qui accueillera des start-up. Un espace dédié à l'émotion et au partage artistique numérique. Et enfin, un espace dédié aux expérimentations pour connecter humains et monde virtuel. Avant cela, il faudra désacraliser la crypte. Il faudra aussi réussir à inscrire ce nouveau lieu dans le Creative District, quartier dédié à l'accueil de start-up créatives que la métropole souhaite créer à Saint-Aubin.
Voilà, c'était le flash d'information de Corinne Saint-Félix. Et concernant la toute dernière information, justement, je pense que la vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme, du patrimoine et des projets urbains aura des choses à dire sur ces lieux patrimoniaux auxquels on donne une seconde vie, mais une seconde vie en plus, avec de la création d'emplois et tout ce qui va avec.
Oui, et c'était le sens d'ailleurs de l'appel à projet Dessine-moi Toulouse, qui est un appel à projet innovant, qui avait comme objectif d'abord d'identifier des sites qui étaient ou stratégiques ou patrimoniaux, et la crypte en fait partie, et de, en quelque sorte, de challenger des opérateurs pour qu'ils donnent du sens à des projets, avec de l'innovation bien évidemment, mais surtout donner du sens, qui s'entourent de compétences pour créer un projet, qui les sorte des projets habituels. Et la crypte en était un, et ICAD, qui est un opérateur des plus classiques, hein, sur le territoire de la ville de Toulouse, c'est la Caisse des dépôts, c'est un promoteur classique, a su s'entourer pour constituer un projet sur la crypte qui s'inscrive bien dans le Creative District. Vous l'avez souligné, c'est un quartier Saint-Aubin, est un quartier particulier, avec de la créativité de la part de start-up, et le projet d'ICAD a su s'entourer des compétences. Il est allé chercher les habitants du quartier également qui ont participé à ce projet de réhabilitation d'un lieu qui est pour le moins très patrimonial, qui est particulier, et il a su nous séduire par ce projet et y trouver également une économie de projet qui était intéressante et qui nous convienne parfaitement.
Et bien après tous ces compléments d'informations très précis, nous allons pouvoir poursuivre notre échange en revenant à notre sujet du jour qui tourne autour de la question, je le rappelle, où en est la candidature de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Métropole et vous ?
Métropole et vous ? Le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropole et vous, la suite avec notre invitée Annette Legnaud, adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'urbanisme et des projets urbains. Alors, comme je pense que la plupart de nos auditeurs n'ont aucune idée de la façon dont ça se passe, et moi non plus à vrai dire, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est la procédure à suivre pour monter et présenter un dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Quelle est la première étape ?
La première étape est déjà de trouver, d'identifier ce pourquoi Toulouse mérite d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il faut fouiller dans son histoire, analyser son passé, analyser son patrimoine. Hein, puis, Dieu sait si dans le centre de Toulouse, le centre-ville est un patrimoine excessivement riche. Toulouse a 2000 ans d'histoire et nous avons quasiment des vestiges sur ces 2000 années d'histoire. C'est la particularité de Toulouse, c'est aussi un petit peu sa difficulté, c'est que nous avons de tout. Nous avons une histoire qui est excessivement riche. Peut-être les Visigoths, nous sommes en manque d'éléments bâtis, mais nous avons une richesse de toutes les périodes que nous avons traversées qui est telle que les idées sont arrivées les unes après les autres. Alors nous avions identifié une période qui est excessivement florissante pour Toulouse, qui était l'époque du pastel. La richesse de Toulouse a été construite à une époque donnée, dans le 15e, 16e siècle, sur la culture du pastel. Ça faisait le lien d'ailleurs, c'était intéressant, parce que ça faisait le lien entre Toulouse et son périmètre extérieur, les zones agricoles extérieures, puisque les propriétaires, les pasteliers, ils étaient à la fois à l'extérieur de Toulouse et sur Toulouse. Et ce commerce du pastel qui a enrichi Toulouse et qui a donné naissance localement à des hôtels particuliers absolument exceptionnels. Nous avons travaillé sur ce thème-là. Nous sommes arrivés à une limite à ce projet puisque nous n'avions pas suffisamment de patrimoine correspondant à la richesse de cette époque-là. Donc nous avons orienté nos recherches vers l'aviation. L'histoire de l'aéronautique avec les premiers, les pionniers, l'aéropostal, et c'est ce qui, d'une part par la fougue des aviateurs, mais le génie des ingénieurs également, qui ont fini par construire ce qui est le fleuron local de l'industrie, et Airbus et tout ce qui gravite autour. Donc nous avons imaginé quelque chose sur ce thème-là aussi, et là aussi on nous en a dissuadé parce que nous avions assez peu de patrimoine à montrer, si ce n'est ce qui existe et que l'on a mis d'ailleurs en valeur il y a peu de temps sur Montaudran. Donc nous avons réfléchi, nous avons continué à travailler avec notre comité d'orientation, notre comité scientifique, et nous avons identifié la lutte des pouvoirs, le pouvoir royal, le pouvoir local. D'ailleurs, c'est important de voir que ce qui s'est passé à une époque donnée, on est toujours un peu rebelle à Toulouse. Est-ce que ça provient de ce moment-là ? Peut-être. Mais la lutte entre les pouvoirs royaux, locaux et le pouvoir religieux. Et petit à petit, on est arrivé à identifier Toulouse capitale, capitale d'un royaume, les Visigoths, et ensuite d'une grande région, et puis capitale religieuse à une époque donnée. Donc, on a essayé de construire quelque chose sur cette histoire.
Raconter autour de la thématique Toulouse capitale.
Autour de cette thématique.
À travers le temps.
Voilà, autour de cette thématique. Et ensuite, une fois qu'on a identifié une histoire, qu'on s'est mis d'accord sur un sujet, d'abord, il faut en vérifier la valeur universelle. Exceptionnelle,
voilà,
cette fameuse VUE. Alors pour UNESCO, il y a un certain nombre de critères à respecter et on coche les cases de chacun de ces critères, et la valeur universelle exceptionnelle est le critère le plus important, et démontrer qu'il n'y a nulle part dans le monde une ville ou une
qui a quelque chose d'équivalent,
ben c'est un travail qui est considérable, qui est excessivement long. C'est une thèse qu'il faut faire pour démontrer cela. Donc c'est un long travail. Pour l'instant, nous n'y sommes pas parvenus. Donc nous devons consolider cette recherche. Il faut savoir également que ça nous permet d'être inscrits sur la liste indicative.
Alors c'est ça.
La liste indicative, nationale. C'est nationale. Ouais. Il faut d'abord démontrer à une équipe nationale qui est liée au ministère de la Culture, oui, que notre projet démontre la valeur universelle de Toulouse. Et ça, c'est une grande aventure, hein, parce que l'État français est assez jaloux de ces sites et de ce qu'elle propose à l'UNESCO, et ne peut proposer à l'UNESCO que quelque chose qui est totalement ficelé et totalement démontré.
J'ai même entendu dire, je ne sais pas si vous allez me confirmer, que si on passe ce stade de la liste indicative nationale, si on arrive à convaincre les experts du ministère de la Culture, on est à peu près certain après qu'à l'UNESCO ça passera.
On est à peu près certain, effectivement, qu'après, à l'UNESCO, ça passera, parce que, bon, alors, avec un petit délai,
Ministère de la Culture vous envoie présenter votre dossier devant l'UNESCO, c'est que c'est bon.
Donc, c'est l'étape la plus importante. Donc, il y a des consultations internationales, d'ailleurs, des organismes qui sont spécialisés, qui vont apporter leur analyse de cette inscription. Donc, c'est très compliqué. Mais ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a quelques années, c'était relativement facile de présenter un projet sur la liste indicative, les choses se sont compliquées parce que l'UNESCO considère que l'État français en a beaucoup et qu'il souhaiterait qu'il y ait des pays émergents qui puissent se présenter des candidatures, alors que l'État français en a beaucoup. Et sur la France, l'Occitanie
en a le plus. Oui, parce que je crois que les deux pays au monde qui en ont le plus, c'est la France et l'Italie, ça ne surprendra personne. Mais en plus, en France, c'est la région Occitanie qui en a le plus.
Donc, face à cela...
La concurrence est terrible.
Il faut savoir qu'il faut présenter un dossier. L'État français n'en propose qu'un bien matériel.
Tous les deux ans. Alors que c'était deux avant.
Alors qu'auparavant, c'était deux. Donc, il faut attendre, si on n'est pas le premier de l'année, il faut attendre deux ans pour...
Oui, donc ça repousse à chaque fois.
Ça repousse au tout temps. Donc, c'est excessivement compliqué. Donc, on a choisi, Jean-Luc Moudenc a souhaité se donner du temps pour consolider le projet que nous avions, pour vraiment être indiscutablement avoir une valeur universelle exceptionnelle.
Autre donnée importante et finalement autre obstacle, c'est que Toulouse a déjà des sites classés. Au titre, certes, d'autres inscriptions, il y a le canal du Midi, dont une portion, comme chacun sait, passe à Toulouse. Et puis, il y a l'Hôtel Dieu et la Basilique Saint-Sernin au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors ça aussi, c'est une chance, bien entendu, mais c'est aussi une difficulté supplémentaire.
Oui, c'est ce qui nous a été dit aussi. Vous avez déjà deux classements au sein de Toulouse. Toulouse est identifiée comme une ville inscrite pour les chemins de Saint-Jacques et pour le bien Canal du Midi. Donc ça oblige, c'est des contraintes, et nous devons le faire savoir. Parce que nous devons montrer, c'est ce que nous sommes en train de vouloir montrer aux Toulousains, que la basilique Saint-Sernin, dont nous avons fait les aménagements extérieurs pour la magnifier, justement, pour la présenter comme un écrin. C'est un écrin. La place que nous avons aménagée est un écrin à cet édifice. Nous faisons des travaux à l'intérieur de la basilique Saint-Sernin parce que, justement, c'est un édifice qui est classé comme composante du bien Saint-Jacques-de-Compostelle. Et de la même façon, pour le canal du Midi, Jean-Luc Moudenc a souhaité que nous ayons un plan canal du Midi pour améliorer la traversée de Toulouse par ce bien qui est exceptionnel lui aussi, qui est un ouvrage hydraulique exceptionnel, mais qui aussi est un bien exceptionnel de par les aménagements qu'il peut y avoir autour et que nous allons effectuer.
Alors, une nouvelle importante très récente tout de même, c'est que Toulouse vient d'obtenir le label Ville d'Art et d'Histoire. C'est aussi le ministère de la Culture qui l'accorde. Sur quoi a reposé l'obtention de ce label et qu'est-ce que ça va apporter à la ville ?
Alors, dans le cadre de cette ambition dont je parlais à l'origine, nous nous sommes mis en ordre de bataille, si je peux dire, au sein de la collectivité pour répondre à cette ambition et pour démontrer que nous avions vraiment une politique patrimoniale à présenter aux Toulousains pour mettre en valeur tout ce que nous avions. Donc, c'est l'inscription au patrimoine mondial, mais c'est aussi la remise sur le métier, si j'ose dire ainsi, du secteur patrimonial remarquable et de cette analyse du centre-ville avec un règlement qui va aller autour pour préserver, c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur patrimonial remarquable. C'est, on vient d'en parler, mettre en valeur ce que nous possédions comme édifice ou comme bien identifié UNESCO. Et puis, c'est présenter Toulouse au label Toulouse Ville d'Art et d'Histoire. Pourquoi ? Parce que obtenir ce label, c'est un gage de qualité. C'est appartenir à un réseau. Il y a une association des villes Pays d'Art et d'Histoire. Donc, c'est riche de rencontres et d'expériences des autres.
De partage d'expériences.
Et puis, ça donne des outils. ça donne des outils qui sont des outils de médiation, parce que le principe du label Ville d'art et d'histoire, c'est de faire savoir, c'est de faire connaître. Donc, nous avons une politique patrimoniale ambitieuse, mais par ce label, nous démontrons que nous voulons la partager avec un maximum des passionnés du patrimoine, mais pas que, des habitants qui veulent s'y intéresser, des enfants, beaucoup d'enfants, puisqu'il y aura beaucoup de contacts avec les enfants, et tout public, les plus âgés, les seniors, qui veulent aussi avoir connaissance de ce patrimoine. Et Ville, Pays d'art et d'histoire donne les outils de médiation, donc un animateur du patrimoine. Donc il y a des aides de l'association Ville, Pays d'art et d'histoire et de l'État, du ministère de la Culture, puisque c'est lui qui le délivre, pour accompagner les collectivités par le recrutement d'un animateur qui sera un architecte du patrimoine, un spécialiste du patrimoine, qui va mettre en place une politique de médiation auprès du public et surtout la création d'un lieu de partage et de rencontre pour partager le savoir, partager cette culture du patrimoine au sein d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Alors actuellement, nous avons un petit lieu, je dis il est petit parce qu'il est modeste pour l'instant, qui s'appelle l'Atelier du patrimoine, qui est place Saint-Cernin et qui tient lieu de préfiguration, si je peux dire, de ce SIAP. Et ce lieu de préfiguration, nous y accueillons pas tout le public que nous souhaiterions parce que c'est tout petit, mais nous faisons des expositions, donc nous aurons des moyens accrus pour dialoguer avec les Toulousains, présenter aux Toulousains. Nous aurons des maquettes, nous aurons des films, nous aurons des documents d'amélioration des connaissances, des conférences, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire partager au plus grand nombre la richesse du patrimoine dont nous disposons.
Je suppose que l'obtention de ce label Ville d'art et d'histoire pour Toulouse est un atout important dans la constitution et l'argumentaire du dossier UNESCO. Alors maintenant, ce serait quoi les échéances pour ce projet de faire classer, de faire inscrire Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce qu'il y en a une d'abord, ou est-ce que pour l'instant on reprend une réflexion, il n'y a pas d'urgence, on réfléchit?
Alors, vous l'avez bien compris, c'est des visions à long terme. Et c'est tout le sens de l'ambition de Jean-Luc Moudin sur le patrimoine. Ce n'est pas une ambition qui se réduit à un mandat électoral ou même deux, c'est une ambition pour Toulouse, une ambition de long terme. Donc, dans ce contexte-là, l'échéance, je ne vais pas vous en parler, il n'y a pas d'échéance. Nous arrivons en fin de mandat, il n'y a pas d'échéance au patrimoine. Donc, c'est une action qui se perdurera par toute l'équipe municipale, quelle qu'elle soit, je l'espère, qui continuera. Mais donc, ce n'est pas une échéance. Il n'y a pas d'échéance, c'est un travail qui continue. Et lorsque nous aurons le projet, le sujet validé, consolidé, là, nous nous présenterons au ministère de la Culture, nous présenterons un dossier et je pense que nous saurons avec succès, le
oui,
ministère et toutes les instances
nécessaires
sauront reconnaître la valeur universelle de Toulouse.
Et puis, vous l'avez bien expliqué, quoi qu'il advienne de ce dossier, la sauvegarde, la mise en valeur, le partage du patrimoine reste un des axes forts de la politique voilà. culturelle et même, on peut le dire, du développement économique de la métropole toulousaine, parce qu'il y a aussi derrière tout ça le développement du tourisme, bien
et
sûr.
Et oui, et puis il faut savoir, il y a le développement du tourisme et dans le développement urbain, il faut savoir que le patrimoine, c'est pas ce qui était derrière, c'est aussi ce qui est devant. Donc nous construisons aussi ce qui fera patrimoine demain.
Ce sera patrimoine dans quelques siècles, évidemment. Mais vous avez fait bien de le rappeler parce qu'on l'oublie parfois, ça. Eh bien, il est temps de terminer cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, Annette Legnaud, et de nous avoir donné tous ces précieux éclairages pour faire le point sur le projet d'inscription de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'est donc pas abandonné, mais c'est un dossier complexe, comme vous avez pu le constater. La réflexion se poursuit, mais le chemin est encore long. Nous l'avons rappelé lors de notre discussion, il y a beaucoup de concurrence aussi dans le domaine des inscriptions à l'UNESCO. La sélection est donc de plus en plus sévère. Il faut bien préparer son affaire et ne surtout pas se précipiter. Nous suivrons bien sûr l'évolution de ce dossier à Métropole et vous. En attendant, vous pouvez vous connecter au site de la mairie de Toulouse pour avoir plus de détails sur le projet. www.toulouse.fr à la rubrique patrimoine, ainsi qu'à celui de Toulouse Métropole. www.toulouse-métropole.fr à la catégorie projet pour suivre l'avancement des travaux menés par la métropole pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupré. Prix à la technique Christophe Aubry. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.